Le texte que nous allons commenter est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 47, versets 1 à 12. En voici la lecture. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple, et voici. Sous le seuil du temple, de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors, comme d'habitude, je vous propose les clés traditionnelles d'interprétation de la parole de Dieu. Mais nous commençons toujours il faut commencer, par une vision historique, et très souvent littérale du texte, qui nous ramène à l'histoire d'Israël. Et ici, il faut savoir qu'Ézéchiel est le prophète de l'Ancien Testament qui a vécu pendant l'exil à Babylone. Période traumatisante, période clé pour bien comprendre la parole de Dieu par rapport à l'histoire du peuple de Dieu. Et cet exil, donc, pour certains même, a déjà commencé en 587 avant Jésus-Christ, pour la plupart en 597, jusqu'en 537 ou 536 avant Jésus-Christ. Donc pendant toute cette période, le peuple hébreu, enfin une bonne partie de la population de Jérusalem et de la province de Juda, est exilé à Babylone et vit dans des conditions de déportation, donc très difficiles. Et le temple, justement, avec la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, après le deuxième siège de Jérusalem en 597, eh bien, a été détruit. Donc toute la religion ancienne basée sur le temple de Jérusalem est détruite. Et le peuple hébreu se pose des questions sur sa nouvelle façon d'adorer Dieu. Et la réponse est là. Ézéchiel, d'abord, leur donne une parole d'encouragement en leur disant que Dieu peut faire renaître de ses cendres sa grâce, donc tout n'est pas perdu, c'est une leçon pour nous, un message, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir, de l'espérance quand on a la foi, malgré des fois des conséquences nous ont entraîné notre péché, comme le peuple hébreu en exil, le Seigneur peut faire renaître les choses, il peut y avoir un nouveau départ, comme le dit saint Paul dans une de ses épîtres, en Christ toute créature est nouvelle, le Christ fait toute création nouvelle. Eh bien, c'est un peu ce message d'Ézéchiel. Et aussi, Ézéchiel veut faire comprendre que la véritable religion, finalement, plus qu'une religion de rite, est une religion de prière et de spiritualité. C'est une véritable leçon dans notre façon de vivre notre foi et de lire la parole. Alors, maintenant, je vous propose d'aller verset par verset dans le texte, de voir des interprétations plus spirituelles. Alors, il y a une interprétation qui est assez centrée sur le Christ, qu'on appelle l'interprétation allégorique, sous le Christ et le Nouveau Testament, ou la façon de lire la parole. Et puis, il y a une interprétation plus intérieure qui décrit le travail de la grâce dans notre âme, qu'on appelle souvent interprétation tropologique. Alors, voyons. Au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme qui me guidait me fit revenir à l'entrée du temple. Alors, ici, il faut bien voir que c'est un homme qui est là et qui guide Ézéchiel dans sa vision. Bien sûr, cet homme est aussi dans la vision. Mais c'est une manière de montrer que le Seigneur connaît notre faiblesse. Il nous aime jusque dans notre humanité et il s'abaisse jusqu'à nous, jusqu'à notre compréhension parfois bien faible de ce qu'il est, lui, le tout autre. Et le Seigneur, eh bien, connaît nos faiblesses et c'est finalement tout le sens de l'incarnation. Le Seigneur s'est fait homme en son Fils pour vraiment venir se mettre à notre portée. Eh bien, ayons confiance en le Seigneur, il connaît nos faiblesses, il sait très bien où sont nos limites, et le Seigneur nous accompagnera toujours sous la forme de cet homme dans notre vision, dans notre vie de foi et dans notre vie quotidienne. Quel bonheur de se savoir aimé par notre Dieu dans ce que nous sommes jusque dans nos propres limites. Ça doit aussi nous encourager à aimer les autres de la même manière. Nous avons souvent un autre regard sur la vie, parce que la méditation de la parole et la prière nous donnent un autre regard plus profond sur la vie, sur des réalités qui dépassent la réalité matérielle. Eh bien, plutôt que d'être cassant et méprisant du fait de notre compréhension plus profonde des choses, sachons se faire homme et de guider nos frères jusqu'à la véritable vision, eh bien, en étant à leur côté, c'est-à-dire en les aimant, en leur montrant de l'intérêt et en se faisant icône justement de cette présence qui nous habite, eh bien, en nous faisant vraiment proches de nos frères, c'est ainsi que nous les amènerons à se poser des questions et à regarder plus loin. Alors, continuons. Et voici sous le seuil du temple de l'eau jaillissait en direction de l'Orient, puisque la façade du temple était du côté de l'Orient. Alors, ici, on voit le temple, c'était l'ancienne religion, et le temple, c'est un petit peu toutes les manifestations extérieures de notre foi, c'est aussi notre vie quotidienne. Il faut que l'eau soit vraiment à la source de ce qui motive nos actions, de ce qui motive nos actes de piété. Il faut que nous ayons d'abord une vie de prière et une méditation de la parole très profonde, et c'est ça la véritable religion. De même, notre vie de foi trouvera pleinement sa mesure si nous avons conscience de cette eau qui doit nous habiter, cette eau qui est comme nourrie par notre prière et notre méditation de la parole. Alors, c'est pareil, notre méditation de la parole doit être spirituelle. Elle doit être orientée vers l'eau, elle doit laisser l'eau être sous le temple qui est aussi la parole de Dieu, c'est-à-dire notre lecture de la parole doit être d'abord priante. L'Esprit Saint doit être sous-jacent dans toute méditation pour vraiment nous guider dans notre méditation de la parole. C'est aussi ce temple, comme le dit saint Paul, tout homme, il parle des chrétiens, mais on peut élargir, tout homme est temple de l'Esprit Saint. Et ce qui est intéressant, c'est ici, eh bien, la façade du temple est tournée vers l'Orient. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre méditation de la parole, nous devons avoir le regard tourné vers l'Orient. L'Orient, c'est le symbole, on dit que c'est par là que reviendra le Christ. Pour les exilés, l'Orient, c'est là où est Jérusalem, c'est-à-dire la spiritualité, la vision de Dieu. Notre lecture de la parole doit être orientée vers l'Orient, elle doit regarder vers Dieu, plutôt que de regarder sur nous-mêmes, ou de satisfaire notre esprit avant de satisfaire notre cœur. Donc la lecture de la parole doit être priante. De même, notre vie quotidienne doit être orientée vers l'Orient. C'est la prière qui doit la nourrir, qui doit nourrir nos décisions et nos actes. Alors, je reviens aussi à cette façade du temple. Donc tout homme, comme je le disais il y a quelques instants, est temple du Saint-Esprit. Donc tout homme est habité par Dieu. Tout homme, un petit peu comme, j'aime bien cette image, le tournesol, qui s'oriente instinctivement vers le soleil. Tout homme, aussi éloigné soit-il, aussi hostile soit-il à l'idée de Dieu, à sa présence, à sa façade orientée vers l'Orient, parce que c'est comme ça que l'homme a été créé. L'homme a été créé pour regarder Dieu. Et l'homme, c'est ça la source de son malheur. C'est que très souvent, eh bien, malgré sa façade qui est orientée vers l'Orient, eh bien, il l'assombrit. Il ne veut pas voir ce Dieu. Eh bien, fort de cette conviction, soyons sûrs que malgré l'hostilité ou l'indifférence apparente des gens à Dieu, ils ont soif de lui dans le plus profond de leur cœur, parce que la façade de leur tente, la façade de leur vie est orientée vers Dieu, tel le tournesol qui se tourne vers le soleil. Et justement, ce divorce entre Dieu et la soif de l'homme de bonheur et d'amour, eh bien, c'est nous chrétiens qui sommes chargés de réconcilier ce divorce, de marier en quelque sorte cette soif que l'homme a avec la source de son bonheur qui est Dieu. On va voir comment dans la suite du texte. Alors, ensuite, on dit « L'eau descendait du côté droit de la façade du temple et passait au sud de l'autel. » Alors, de nouveau, centrons-nous sur le Christ. Toute véritable religion, toute véritable spiritualité, à commencer par notre méditation de la parole, doit être orientée vers le Christ. Parce que cette eau qui coule du côté droit, Bien, c'est clair par un autre passage de la parole, qui est une façon tout à fait spirituelle d'interpréter la parole. Souvenez-vous dans le passage de Saint Jean où il sort de l'eau et du sang du côté du Christ qui est transpercé par la lance, du côté droit du Christ. Eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. La véritable religion, ce que la véritable spiritualité, c'est de savoir que Dieu nous aime au point de s'être fait homme en son Fils. Et il nous aime tellement qu'il est prêt à en souffrir, même si ça le conduit jusqu'à la mort, parce qu'il souffre de, justement, du mauvais usage de notre liberté. Eh bien, il nous aime malgré tout, même si cela le conduit à souffrir jusqu'à en mourir. Alors, quel amour fort de Dieu! Eh bien, c'est ça la véritable spiritualité. Et seule la religion chrétienne va aussi loin pour nous dire que Dieu nous aime. Vous voyez le point central de la place du Fils du Christ dans toute véritable religion. Et de même, nous devons nous-mêmes dans notre vie nous souvenir que Dieu nous aime à ce point malgré les obstacles et les difficultés. De même, dans la lecture de sa parole, il y a des passages difficiles, choquants. Toujours, nous devons avoir les yeux fixés sur ce côté droit. Le centre de la parole de Dieu, c'est de savoir que Dieu nous a aimés en son Fils jusqu'à mourir pour nous. Et si nous avons vraiment ce regard tourné vers le côté droit du Seigneur, d'où jaillit l'Esprit Saint, cette eau, eh bien, toutes les pages vont s'éclairer de la parole, et alors, par une lecture guidée par l'Esprit spirituel, même les passages les plus sombres vont nous révéler l'amour de Dieu. Parce que c'est ça qu'il nous faut chercher dans chaque passage de la parole. Quel est, dans la parole, dans tel ou tel passage, qu'est-ce que ce passage me révèle de l'amour de Dieu? Même des passages difficiles, hein. Je pense, bon, il y a des passages très difficiles. Par exemple, dans le livre des Juges, Jephté qui sacrifie sa fille à Dieu parce qu'il avait demandé à Dieu de lui donner la victoire et que si Dieu lui donnait la victoire, eh bien, il sacrifierait la première personne qu'il verrait et il sacrifie sa fille parce qu'il veut tenir sa promesse à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu lui encourageait. Mais le message d'amour ici, que nous avons par-delà les limites du texte, ces limites humaines, c'est pas cette eau qui jaillit du côté droit du Christ. Parce que si Dieu nous aime au point de s'être donné en son Fils jusqu'à en mourir, tout passage de la parole doit être une révélation de l'amour de Dieu. Eh bien, c'est qu'on ne marchande pas avec Dieu. Dieu nous donne sa grâce gratuitement, on n'a pas à l'acheter. Voyez comment on peut interpréter, bon, je ne vais pas faire ici un panel des passages difficiles de la parole de Dieu, mais c'est un exemple. Et de même, donc, je reviens à ceci, hein, l'homme dans son temple, l'homme dans sa recherche du bonheur, eh bien, seul le Christ peut le combler, parce que seul le Christ lui révèle la révélation. Dieu t'aime, Dieu nous aime, et pas nous aime comme ça, un petit peu comme à l'image du Coran, il nous a créés, bon, il nous aime. Mais il nous aime et il s'est mouillé la chemise pour nous le montrer. Il est mort pour nous. Voilà le message, voilà la véritable spiritualité. Et de même, voyons, centrons-nous maintenant sur l'action de la grâce dans notre cœur et dans le cœur de nos frères. La véritable grâce, c'est celle qui sort du côté droit du Seigneur. Le Seigneur est cette eau sous le temple. Le Christ travaille déjà dans le cœur des hommes. Mais comme il les aime, au point de s'être donné sur eux sur la croix, ils respectent leur liberté, leur réticence. Donc la grâce qui sort du côté droit est toujours une grâce lente et respectueuse et nous encourage à la patience. Et justement, cette patience, eh bien, c'est aussi l'autel. Parce que si nous voyons la vision du temple, Ézéchiel fait face au temple, du côté droit de la façade, il voit l'eau qui coule, et cette eau coule, en traversant l'autel, par l'autel, pour aller rejoindre Ézéchiel du côté sud, si vous voulez. Eh bien, la grâce du Christ, comme le Christ s'est fait homme et veut respecter par là la liberté des hommes, eh bien, doit passer par d'autres hommes, par l'autel. Parce que, en passant par d'autres hommes, cette grâce respecte pleinement la liberté humaine, c'est par les hommes que les hommes sont sauvés. C'est donc pour ça que le Christ s'est incarné, pour que ce soit par un homme que le monde soit sauvé. C'est la manière de Dieu de respecter la liberté de l'homme. Dieu agit, mais en respectant la liberté. Donc comment nous, hommes, pouvons-nous contribuer à ce que cette eau coule jusque dans le cœur de nos frères? Eh bien, c'est par l'autel. L'autel, c'est la prière. Donc cette grâce du Christ trouvera pleinement son efficacité si elle est accompagnée par notre prière, par notre intercession pour nos frères. De même, pour nos propres vies, c'est aussi nos efforts. Par nos efforts, nous voulons nous ouvrir davantage à Dieu, Nous voulons que cette eau coule du côté droit du Christ dans notre vie, eh bien, nos efforts vont trouver leur pleine mesure s'ils sont nourris et accompagnés par notre prière, c'est-à-dire cette grâce qui passe par l'autel. Continuons. L'homme fit sortir par la porte du nord et ne fut faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui regarde vers l'Orient, et là encore l'eau coulait du côté droit. Alors là, c'est intéressant parce que Ézéchiel sort du temple, il fait une partie de l'extérieur et il arrive vers une porte ici. Il n'est pas à l'intérieur du temple, vers une porte et il voit que par cette porte qui regarde vers l'Orient, la grâce peut couler. Alors ici, c'est aussi une manière de nous montrer que si nous voulons que la grâce atteigne vraiment notre cœur, il faut consacrer du temps pour faire le tour. Il faut consacrer du temps à la prière. Il faut consacrer du temps à la méditation de la parole. Et il faut vraiment aborder la lecture de la parole avec beaucoup de respect. Une lecture de la parole qui consiste en 5 minutes à ouvrir sa Bible et tout de suite le lire et la refermer ne va pas porter beaucoup de fruits et l'eau ne va pas couler par cette porte extérieure. Même si elle regarde vers l'Orient, il faut vraiment en faire le tour. Il faut consacrer du temps à prier, à méditer la parole et à la reméditer, à la digérer, à la manger justement comme le dit aussi le prophète Ézéchiel, mange les rouleaux. Eh bien, il faut vraiment consacrer du temps dans la prière, à méditer la parole, à prier plus largement dans notre vie, consacrer du temps à Dieu. Et ici aussi, ce qui est intéressant, c'est si on reprend aussi cette image de la grâce qui agit en nos frères et en nous-mêmes, eh bien, comment faire? La grâce agit aussi si l'on fait le tour extérieur. Elle agit d'abord par l'autel, par la prière, par notre intercession, mais aussi nous sommes appelés à faire le tour du temple de l'extérieur et de pénétrer par l'extérieur en ayant fait le tour. Eh bien, nous devons consacrer du temps à aimer nos frères. Ils ont une vision extérieure de nous-mêmes. Parfois, ils ne savent pas, ne pouvons pas témoigner notre foi de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ils voient ce que nous sommes, ils voient ce que nous faisons. Et par cette vue extérieure, par notre charité, eh bien, petit à petit, la grâce rentre en eux parce qu'ils sont appelés à s'ouvrir à la grâce, à se poser des questions. C'est le rôle de notre témoignage en acte. Et vous voyez, il n'y a pas de divorce entre action et prière. Parce que pour que l'eau coule pleinement du côté droit du Christ jusque dans la vie de nos frères, eh bien, nous sommes appelés à prier, mais aussi à faire le tour du temple par notre charité et à voir la porte extérieure. Et par l'extérieur aussi, être source de grâce pour nos frères, ou plutôt que source, être canal de grâce, parce que la source, c'est toujours le côté droit du Christ. Nous sommes des canaux de la grâce de Dieu par notre prière et par notre action qui fait le tour, c'est-à-dire le temps que nous consacrons à nos frères, à vraiment montrer que nous avons de la considération pour eux et en les aimant. De même, ici, c'est vraiment nous montrer que pour nos vies, c'est notre prière et nos efforts. Tout ce temps que nous consacrons à Dieu, que nous consacrons à mettre de l'ordre dans notre vie, qui va faire que pleinement la grâce du Christ, qui n'est pas méritée, qui nous est donnée, eh bien peut couler vraiment dans notre vie, dans notre temple. Donc voyez nos efforts ou nos actions pour nos frères, ce n'est pas la source, comme tout à l'heure j'ai dit un peu rapidement, mais c'est le canal. C'est-à-dire que nous ne méritons pas cette grâce, elle nous est donnée, mais nous pouvons nous ouvrir, nous pouvons cultiver notre liberté pour, finalement, nos efforts sont là pour laisser la pleine place à la grâce du Christ. Donc nos efforts ont une importance, mais ils ne sont pas premiers. Et ces efforts doivent être aussi nourris par la prière et accompagnés. De même, notre action pour nos frères. Alors continuons. Après, il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaîtra en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils pousseront des fruits nouveaux, chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Alors, de même, si nous voulons que notre spiritualité soit comme cette eau vivifiante qui va faire que chaque page de la Bible, même celles qui nous paraissent un peu lettres mortes parce que elles nous paraissent caduques ou choquantes, si nous voulons que tout se fasse nourriture, que vraiment tout soit assaini et que tout donne du poisson et de la nourriture, il faut vraiment laisser l'eau de l'esprit habiter notre méditation de la parole, chaque page de la parole, comme je l'ai montré tout à l'heure, par la prière et en nous centrant sur l'amour pleinement révélé, l'amour divin pleinement révélé par la croix du Fils, hein, symbolisé par cette eau qui coule du côté droit. Eh bien, il faut vraiment se laisser habiter par cette lecture spirituelle guidée par l'esprit, et alors chaque parole de la Bible, même les plus sombres, les plus mortes, comme cette mer morte, va porter un fruit insoupçonné. De même, le Christ, toujours cette interprétation centrée sur le Christ, est celui qui va donner la véritable mesure à toute spiritualité. Les religions sans le Christ, eh bien, sont comme lettres mortes. Même si elles peuvent contribuer à ouvrir le cœur de l'homme, il leur manque le principal, cette eau qui va vraiment vivifier toute chose. Le Christ est lui seul, peut vraiment, parce qu'il nous montre l'amour de Dieu, il nous offre, plus qu'il nous montre, il nous offre, par la relation personnelle avec lui, d'avoir cette relation vivante avec le Père, cette relation filiale, eh bien, par là, elle assainit, si vous voulez, cette spiritualité centrée sur le Christ. Tout ce qui peut être l'être mort, les rites ou la superstition, etc., etc., qui sans une relation vivante à Dieu sont comme l'être morte. Et seule cette spiritualité centrée sur le Christ nous permet de porter du fruit, et du fruit bien au-delà de nos espérances, un fruit chaque mois. Eh bien, soyons conscients aussi, dans notre vie, que c'est une vie centrée sur la prière, que par la prière nous arriverons à des choses bien plus profondes que par nos propres efforts, seuls, sans inspiration spirituelle, sans être orientés par la prière. De même, quand nous voulons vraiment porter du fruit pour nos frères, nos efforts, s'ils ne sont pas orientés et nourris par la prière, sont bien vains. Seule la prière, seule cette conscience que la grâce du Christ est première, et donc nourrir notre prière, nous donner la conscience que notre prière est importante, seule cette spiritualité peut vraiment nous faire porter du fruit au-delà de nos espérances dans notre vie et dans le cœur de nos frères. Voilà la véritable évangélisation. Plus que des techniques ou à force de paroles, il faut vraiment que ça soit d'abord ancré par la prière, que cette prière débouche sur un amour nourri par la présence de Dieu, et par c'est finalement les armes du côté droit du Christ, cet amour sur la croix, et bien là nous aurons des résultats, nous porterons du fruit au-delà de nos espérances. Bien loin, plutôt que de compter sur des stratégies, etc., sans mettre la prière au centre. Et de même, je reviens sur cette idée des religions, seul le Christ, qui est source de l'Esprit-Saint, peut assainir les eaux, peut donner un sens à toute cette recherche de Dieu. Autrement, eh bien les religions sont bien sèches, à l'image de l'hindouisme et du bouddhisme, qui parfois ne voient même pas de Dieu dans le bouddhisme, mais une espèce de prison dans l'univers qui, par dépersonnalisation successive, que sont les réincarnations, nous offre de nous dépersonnaliser totalement en nous oubliant en une divinité informe, ou l'hindouisme qui nous fait adorer souvent plusieurs dieux ou un dieu unique mais très impersonnel, et de même avec ses réincarnations, et l'islam qui est un dieu bien écrasant et bien lointain, qui nous paraît nous aimer avec une grande distance. Eh bien, le Christ, lui, nous offre cette relation personnelle, de la vivre avec lui. Et en vivant avec lui, nous vivons de cette vie de la Trinité, de cet amour-relation avec Dieu, où le Père se donne pleinement et où le Fils l'aime en retour d'une manière pleine et entière. Eh bien, nous sommes le tout vraiment entourés comme le sceau de leur amour par l'Esprit-Saint. Nous sommes invités à être au cœur de cette Trinité par le Fils, qui, en ressuscitant, a fait pénétrer l'humanité et la chair en pleine trinité. Donc nous sommes invités par le Fils à vivre avec ce que nous sommes de cet amour de Dieu dès maintenant. Eh bien ça c'est merveilleux. D'avoir une relation avec le Père filiale, vraiment où nous nous laissons aimer par Dieu avec l'aide de son Fils. Et avec l'aide de son Fils nous aimons Dieu gratuitement et non pas pour mériter notre salut. C'est finalement... Nous rêvons d'une telle relation avec nos frères, avec nos amis, avec nos femmes, avec... voyez, eh bien, Jésus nous offre cette relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de mieux? Une relation parfaite avec où nous sommes aimés parfaitement et nous sommes appelés, évidemment, cela trouvera sa pleine dimension dans le ciel. C'est aussi ces fruits qui vont donner, cet arbre qui s'épanouit, c'est jusque dans le ciel. Nous sommes appelés à cette relation aussi nous parfaite, à aimer parfaitement. Et ici, aussi, regardons, quand nous prions pour nos frères, sachons que seul le Christ peut leur apporter le véritable bonheur. Lui seul peut permettre à nos frères, ils ont tellement soif de bonheur, ils recherchent dans différentes religions, dans le habit matériel, dans la société de consommation, dans bien des choses, ils recherchent le bonheur, mais seul le Christ peut leur permettre de porter du fruit de leur espérance. Et justement, le Seigneur permet de porter du fruit, il unifie nos vies et nous rend pleinement heureux. Lui nous apporte la paix. Lui seul peut faire que les eaux pâtrées, les eaux sales de notre inconscient, les eaux sales de notre péché puissent être assainies pour donner des fruits, pour faire que notre vie porte des fruits de paix et d'amour. C'est le Christ seul qui peut ça dans nos vies et dans la vie de nos frères. Que ceci nous encourage vraiment pleinement à prier pour que justement, l'autel et la charité, à prier à les aimer, pour vraiment tracer un chemin à cette eau dans leur cœur, pour que cette eau se fasse torrent et qu'elle débouche sur ces fruits qui vont unifier leur vie petit à petit. Et les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Eh bien, les feuilles un remède, c'est exactement ça. La grâce de Dieu agit d'abord en nous pour après déborder pour les autres. Il faut pas à la force du poignet essayer de montrer qu'on aime les autres. Il faut vraiment se laisser aimer par Dieu et vraiment se laisser nourrir de son amour pour après le refléter. Tout prend sa source dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est ainsi que nous porterons du fruit et que nos feuilles, c'est-à-dire notre vie quotidienne, va se faire remède. C'est comme un surcroît, un peu comme un arbre. Les feuilles, c'est le surcroît et les fruits, c'est le surcroît de la sève, de la vie intérieure de l'arbre. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes appelés à faire de notre vie un remède pour nos frères. Comment? Eh bien, en cultivant cette eau en nous, par une lecture de la parole spirituelle, vivifiante, qui va donner des fruits, qui va être remède pour les autres, par une vie spirituelle et de prière, vraiment, qui va être riche, c'est-à-dire riche du temps que nous consacrons à Dieu. Et ici aussi, c'est une vision de nous montrer que chez nos frères, Dieu travaille d'abord dans l'inconscient, nourri par notre prière qui est l'autel et notre foi où nous faisons le tour vers la porte extérieure, par notre amour et notre charité, action, charité et prière, eh bien nous agissons en nos frères par ce biais-là, c'est Dieu qui nous donne ce rôle et la grâce va petit à petit vraiment jaillir et petit à petit, vous voyez, cette grâce avance dans le cœur de nos frères, elle va assainir vraiment ce qui est péché. Puis elle va petit à petit donner de la nourriture, et puis petit à petit ça va porter des fruits. Donc les gens vont commencer à changer, et puis la conversion finale, c'est quand ils vont s'ouvrir pleinement à Dieu, et alors eux-mêmes vont devenir remèdes. Voyez ce cheminement de la grâce? Eh bien, c'est le chemin que Dieu nous trace à nous chrétiens. Il nous promet que dans notre vie d'abord, dans les pans de notre vie qui ne sont pas encore à lui, dans notre vie qui est bien encore imparfaite, il nous promet que sa grâce travaille, qu'elle assainit les choses, qu'elle nourrit, qu'elle fait porter du fruit et enfin nous sommes remèdes pour les autres. Alors ne nous décourageons pas malgré nos manquements, la grâce de Dieu est là et travaille. Redoublons de prières et d'efforts nourris par notre prière, même si parfois nous tombons. Et bien aussi pour nos frères, que ceci nous encourage à les aimer davantage et à prier davantage pour eux, parce que cette grâce avance. Elle nourrit le cœur des frères, elle assainit leurs péchés d'abord, elle les purifie. Tout ça sans que nos frères en aient forcément conscience, puis petit à petit la grâce répare le cœur de nos frères pour les faire porter du fruit qui va jaillir jusque dans leur conscience, jusque dans leur conversion où eux-mêmes deviendront remèdes. C'est la voie que Dieu nous montre dans ce texte et c'est ainsi que nous sommes appelés à redoubler de foi, de prière et de charité pour nos frères et à accentuer notre patience et notre persévérance pour nos frères et sur nous-mêmes par rapport à nos efforts. Et de même, dans notre lecture de la parole et notre vie spirituelle, ne nous décourageons pas. Soyons toujours vraiment désireux de faire le tour du temple et de consacrer du temps à Dieu. Voilà. Je vous propose maintenant de prier, si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire vôtre cette prière. Seigneur, nous venons vers toi, nous te contemplons, nous savons que ta grâce vient de ton côté droit. Nous te remercions pour l'amour dont tu nous aimes, que tu nous as manifesté sur la croix, cet amour qui veut nous nourrir. Eh bien, Seigneur, nous sommes là. Nous ouvrons notre cœur, nous nous tournons vers l'Orient, nous nous tournons vers toi. Oui, viens inonder notre vie pour qu'elle porte du fruit et qu'elle soit remède pour les autres. Seigneur, apprends-nous à lire ta parole en la méditant tournée vers l'Orient, en laissant l'eau de l'Esprit irriguer notre méditation et notre prière. Nous prions aussi pour que tu appuies nos efforts, qu'ils soient comme une porte par laquelle ta grâce puisse entrer encore plus profondément en nous pour porter du fruit et être remède pour les autres et pour nous-mêmes. Et nous prions pour nos frères. Nous sommes là à l'autel par lequel ta grâce veut couler du côté sud. Nous te demandons de nous aider aussi à en faire le tour, à les aimer, pour que la grâce puisse rentrer par la porte extérieure. Et nous prions pour eux, oui Seigneur, que ta grâce, tel un torrent, les purifie, les nourrisse, leur fasse porter du fruit et fasse d'eux des remèdes. Amen. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.
Free audio post-production by Alphonic.com.